En 1027, un cœur rougi, l'urine d'un gars, sans oublier de Lafayette. Ils vous diront, il faut avoir un grain, c'est les rainettes, pour qu'on le chasse à l'âge de la retraite. Je n'ai jamais dit que j'étais sain, je conduisais une camionnette. Sincèrement, j'ignorais le teint, cela peut arriver au prophète. Monsieur le président, madame Chirac, Bernadette, s'il vous plaît, tendez-moi vos mains, ou moi cassez les lunettes. S'il vous plaît, tendez-moi vos mains avant que je perde la tête. La rage, Arthur, Arthur, vous qui réalisez les rêves. Je vous demande pas la lune ni la fortune, s'il vous plaît, aidez-moi sortir de ce fleuve. Je souffre d'une fracture, pulvérisée par la veuve. Prévu de me péter le futur, l'angoisse vous veut la preuve. C'est vrai que j'ai voyagé avec un pourriture, des pourritures. Il m'a joué le rôle du Satan, son rôle a grillé Adam et Ève. Je me suis trouvé derrière les murs pour avoir conduit une voiture. On m'a interdit le territoire, j'ai fait appel à la marche aux crèves. Le seul moyen de dire au public que je n'aurai cyanure. Ici, ils peuvent le faire comprendre à ceux qui se sont réjouis de me jeter comme une ordure. Moi, qui a laissé ma jeunesse et ma sueur sur les autoroutes du Toutry Villeneuve. Monsieur Sarkozy, monsieur de Villepin, s'il vous plaît, permettez-moi si j'ai osé de vous demander un coup de main. Car c'est lui qui m'a jugé, déteste les maghrébins. Même ceux qu'on construit, le musil aura jamais de venin. Fallait voir comment qu'il a rougi, sans négliger, m'a coupé les jambes et compris les mains. Pire que les nazis, l'entend d'Hitler, mon père, il a défendu la source et les artères. D'un rythme de son fils numéro 1. Mais excuse les lésés si j'ai plus de frein. Si je laisse le moisi, adieu le pain. Voilà la poésie qui m'a permis d'analyser le défaut de l'humain. La rage, Arthur, Arthur, vous qui réalisez les rêves. Je vous demande pas la lune ni la fortune, s'il vous plaît, aidez-moi sortir de ce fleuve. Je souffre d'une fracture, pulvérisée par la veuve. Prévu de me péter futur, l'angoisse pour de la preuve. La rage, je vous fais serment devant le juge. Tu juges, c'est qui mon juge, tel qu'un maghrébin. J'étais blessé, c'est mon voisin, il a rien aux zizi tout dans les reins. Il m'aurait donné un coup de fusil ou de me jouer à sa tour. J'aurais pardonné la putain. Pourquoi j'ai réagi, ça j'ai des gamins. Leur amour m'a fait bouger sans les voir, je leur envoie les câlins. Peut-être qu'ils sont bien protégés. J'ai jamais eu de nouvelles, je ne saurais vous dire la situation de mes poulains. La rage. Mesdames, messieurs les députés, mon âme vous avoue si sincérité. C'est vrai qu'Anan m'a fait tomber quand j'étais petit. Et lui c'est vrai qu'Anan, avec ses talons, j'ai pas pu l'éviter. J'ai pas pu l'éviter, sa banane m'a marqué pour l'éternité. Mesdames, messieurs l'égalité, vous connaissez le renard depuis sa naissance, il vous a jamais quitté. Malheureusement, on profite de sa confiance, mal placée, parce qu'on adore son identité. Mesdames, messieurs la fraternité, vous voyez la conscience, aujourd'hui l'incroyable devient réalité. La rage, Arthur, Arthur, vous qui réalisez les rêves. Je vous demande pas la lune ni la fortune, s'il vous plaît, aidez-moi sortir de ce fleuve. Je souffre d'une fracture, pulvérisée par la veuve. Prévu de me péter le futur, l'angoisse vous veut la preuve. Arthur, Arthur, vous qui réalisez les rêves. Je vous demande pas la lune ni la fortune, s'il vous plaît, aidez-moi sortir de ce fleuve. Je souffre d'une fracture, pulvérisée par la veuve. Prévu de me péter le futur, l'angoisse vous veut la preuve. La rage.
Chers auditeurs de La Rage des Dents, nous voilà de retour après 15 jours d'absence. Aujourd'hui, je reçois deux sociologues, Maxime et Karel. Maxime, bonjour.
Bonjour.
Karel, bonjour.
Bonjour.
Alors, nous allons parler de gilets bleus, plus exactement de décathlon et d'autonomie au travail. J'ai tout ?
Absolument.
Bon, alors, quand votre livre est arrivé à Publico, notre librairie chérie, il a pour titre « Gilets bleus, les faux-semblants de l'autonomie au travail à Décathlon » et votre éditeur, c'est Raison d'agir. Vous allez expliquer pourquoi Raison d'agir est un éditeur à part. Tout de suite, je me suis penchée sur la quatrième de couverture et j'ai décidé de le lire. Et j'ai été enchantée parce que tout ce que j'ai lu, d'où l'invitation pour parler d'autonomie, qui est un sujet cher aux anarchistes, surtout au travail. Et Décathlon, je vais commencer par dire des méchancetés à leur sujet. Je vais rappeler qu'en 2024, ils ont eu 1 milliard d'euros de dividendes, qu'il y a Disclose, le site d'investigation, l'émission Cash Investigation, qui ont fait un excellent numéro pour expliquer qu'ils utilisaient le travail forcé, le travail des enfants. Décathlon maintient sa présence en Russie alors qu'il y a la guerre en Ukraine. Au niveau paradis fiscaux, c'est la famille Muliez qui sont des exilés fiscaux en Belgique. Alors, et ils sont sous enquête. Il y a eu des perquisitions en France, en Belgique et au Luxembourg par rapport à leur montage financier qui serait opaque. Donc voilà les méchancetés.
Des méchancetés bien informées.
Bien documentées.
Tout à fait. Alors, Raison d'agir, pourquoi ?
Alors, Raison d'agir, c'est effectivement une petite maison d'édition qui est née à la fin des années 90, à la suite d'une initiative du sociologue Pierre Bourdieu, qui, après les mobilisations de 1995, a décidé de lancer une association qui s'appelait Raison d'agir, et qui visait justement à faire en sorte de créer un intellectuel collectif, c'est comme ça qu'il voyait en fait l'action des intellectuels, pour la mettre au service des mouvements sociaux. Donc il a créé cette association, alors je ne sais plus, dans la foulée de 95, donc ça devait être en 96-97, et à la suite de ça, il a décidé de lancer cette petite collection, puisque l'idée c'était de vulgariser le plus possible les sciences sociales, et il a écrit ce fameux bouquin sur la télévision. Et ensuite, toute une série, il y a eu les nouveaux chiens de garde de Serge Halimi, etc.
Qui a fait l'objet d'un excellent documentaire par Yannick Argoat et Gilles Belbastre. Nous avions reçu Yannick Argoat dans La Rage dedans pour son dernier documentaire sur l'affaire Sarkozy-Kadhafi. Mm-hmm. Donc, vous pouvez les réécouter en podcast, il n'y a pas de souci. Et donc, Raison d'agir vous publie, et avec raison, si j'ose dire, parce que votre livre est excellent. Alors, on rentre dans le vif du sujet. Pourquoi deux sociologues enfilent le gilet bleu à Décathlon après une enquête qui va durer 3 mois sur le terrain, mais qui en fait dure depuis 4 ans ?
Alors oui, effectivement, ce petit livre, c'est un extrait d'une enquête plus vaste qui a d'ailleurs donné lieu à une autre publication, Décathlon ou les tactiques de la vertu. C'est un autre bouquin qui est apparu en mai dernier aux presses de Sciences Po, donc un ouvrage collectif. On est 8 auteurs et autrices à avoir travaillé sur ce livre. Et le point de départ de notre enquête, c'était de nous interroger sur ces entreprises qui se présentent aujourd'hui comme des entreprises citoyennes ou vertueuses. Et l'idée, c'était souvent quand on étudie les entreprises qui se disent citoyennes, qui développent en particulier des politiques de RSE, de responsabilité sociale et environnementale, on s'intéresse à l'impact qu'elles peuvent avoir sur les communautés locales. Et nous, on a cherché à articuler ce questionnement à un questionnement sur ce que les salariés de ces entreprises font de cette posture d'entreprise citoyenne. Est-ce que ça produit un type particulier de citoyen d'entreprise et de quelle mesure dans quelle mesure, en fait, une entreprise peut être en capacité, en quelque sorte, de façonner les conduites des individus, de façonner les conceptions de la citoyenneté que peuvent avoir les salariés. Donc, dans le cadre de ce questionnement plus large, Gilet Bleu, en fait, il décline cette idée-là autour d'une dimension spécifique de cette entreprise citoyenne, parce que parmi les vertus que revendique Decathlon, il y a cette idée d'être bienveillant vis-à-vis de ses salariés, d'être attentif à la qualité de vie au travail, à la convivialité dans les équipes, etc. Et pour les cadres dirigeants de Decathlon, le principal outil pour créer cette bonne ambiance et cette qualité de vie au travail, c'est l'autonomie au travail. C'est le fait de laisser aux salariés le maximum de marge de manœuvre possible dans la conduite de leur activité. On pourra revenir plus en détail sur l'autonomie. Mais en tout cas, voilà, c'est cette idée-là. Et donc, dans la suite de cette enquête plus large, notre enquête de terrain, c'est-à-dire que pendant quasi 2-3 mois avec Maxime, on a endossé le gilet bleu pour travailler quelques jours par semaine aux côtés des salariés d'un magasin. C'était de voir ce qu'il en était concrètement de ces pratiques d'autonomie au travail.
Alors, on peut dire que le manager qui vous a ouvert les portes de Decathlon ne doute de rien. Alors, on va dire ce qu'il est. Il a une soixantaine de salariés sous ses ordres et il fait un chiffre d'affaires de 20 millions d'euros par an. Et il pense qu'il va vous convertir à peut-être quelque part.
Alors effectivement, je pense que c'est important de rappeler le contexte dans lequel en fait ce livre apparaît et surtout l'enquête dont il découle. Comme l'expliquait à l'instant Karel, ce livre il se construit en fait, il apparaît dans une enquête collective de 4 ans. Et en fait, au cours de cette enquête collective, on a fait plusieurs dizaines d'entretiens, des entretiens au Mexique, en France, un peu partout. Et dans le cadre de cette enquête collective, on avait pris contact en fait avec un directeur de magasin pour faire un entretien au départ, tout simplement. Et au cours de cet entretien, on l'a senti extrêmement détendu, extrêmement confiant. Et à cette occasion, en fait, on lui a proposé de faire un stage dans son magasin pour justement comprendre. Nous, on l'a un peu attiré sur le terrain de l'engagement au travail. Bon, c'était l'objectif aussi de notre enquête, de voir comment l'entreprise mobilise en fait ses salariés à travers justement les politiques de la boîte. Et en fait, effectivement, il était tout à fait convaincu, je pense, de la bonne parole de l'entreprise, des politiques, et a accepté tout de suite, en fait, de nous ouvrir les portes de son magasin pour qu'on puisse y travailler le temps qu'on voulait. Donc voilà, effectivement, ça s'est fait dans ces conditions-là. Il ne doutait pas. Alors, il doutait peut-être un peu parce qu'il y était sur le départ. Mais en tout cas, il avait foi. Je pense qu'il était aussi convaincu par la démarche sociologique aussi, paradoxalement, du côté un peu réflexif que permettait en fait la démarche sociologique, puisqu'en fait, à Decathlon, il y a quand même toute cette idée d'avoir une réflexion sur ces pratiques, quoi qu'on en pense de cette réflexion et de cette démarche réflexive. Mais il y a quand même cette idée-là qu'il faut avoir une espèce de retour, de réflexion sur ce qu'on peut faire. La sociologie le permettait, en tout cas, dans son esprit. Quoi.
Il n'a pas lu Bourdieu. La sociologie est un sport de combat.
Je ne sais pas s'il voulait nous convertir au modèle d'entreprise qui dirigeait, mais en tout cas, c'est certain que lui était convaincu des bienfaits de ce modèle d'entreprise et qu'il considérait qu'il n'avait rien à nous cacher. Donc pour nous, ça a été une vraie opportunité parce que ça nous a permis de profiter vraiment. C'est-à-dire qu'on est arrivé sur le terrain à découvert. Les salariés savaient qu'on était des sociologues. On a été présentés comme tels au début de l'enquête par le directeur du magasin auprès du personnel. Et bien évidemment, au départ, les premiers jours, il pouvait y avoir un peu de méfiance de la part des salariés parce qu'ils pouvaient se dire qui c'est ces deux-là qui viennent, recommandés, mais introduits par la direction en quelque sorte. Et donc certaines pouvaient penser que peut-être qu'on travaillait en sous-main pour la direction de l'entreprise. Ils se sont très vite rendu compte en fait que ça n'était pas le cas. Et du coup, c'est aussi un des bienfaits de ce type d'enquête par immersion. C'est-à-dire que le fait de côtoyer sur un temps relativement long le quotidien des salariés, ça permet de créer des rapports de confiance ou en tout cas de faire en sorte que les défiances initiales retombent pour avoir des accès à tout un tas de pratiques ou de discours qui iraient pas de soi dans le cadre simplement d'un entretien d'une heure ou deux, en fait.
D'accord. Alors, messieurs, l'autonomie, qu'est-ce que c'est ?
Alors,
Vous avez trois heures.
On en a une petite définition dans l'introduction.
Oui.
Précisément, donc l'autonomie, on la pose comme, c'est une définition un peu de départ, la capacité d'un travailleur à se fixer ses propres règles dans la réalisation d'une activité déterminée, en maîtrisant notamment les conditions de son exercice et le sens de ses finalités. Alors, cela étant dit, il y a une chose qui va de soi pour nous, mais ça va mieux en le disant sans doute, c'est ce dont on parle, c'est l'autonomie dans le travail, sous-entendu dans le travail salarié, en régime capitaliste. Et donc, eh oui. C'est une autonomie dans la subordination, puisque d'une certaine façon, les pratiques d'autonomie qui sont développées par les directions d'entreprise, elles restent dans un cadre fondamental qui est celui du rapport salarial capitaliste, où des individus sont obligés de louer leur force de travail en échange d'un salaire. Donc ça, évidemment, c'est un peu l'arrière-fond de toute notre réflexion. Et voilà, pour évacuer tout de suite un faux débat, voilà, cette autonomie, c'est une autonomie dans la subordination. Mais après, ce qu'on essaye de montrer, en fait, et de travailler dans le bouquin, c'est de donner à voir, de documenter la diversité des pratiques de l'autonomie. Diversité des pratiques qui se traduit à la fois dans les politiques de l'entreprise, c'est-à-dire qu'on essaye de décrire un peu finement la façon dont les cadres dirigeants de l'entreprise conçoivent l'autonomie au travail, mais aussi diversité des pratiques à travers les usages que les salariés en font. On essaye de montrer que tous les salariés, toutes les salariées n'ont pas la même compréhension, n'ont pas le même rapport à l'autonomie au travail, et on essaye de décrire ça.
Et même des salariés qui considèrent que l'autonomie est un poids.
Tout à fait.
Absolument, oui.
Vraiment. Ça, c'est vraiment votre enquête, elle est très fine. Alors,
sur cette histoire de l'autonomie comme un poids, en fait, c'est vrai que il y a, et ça aussi, c'est un moyen de se positionner par rapport à un débat dans les sciences du travail. Je parle pas des sciences de gestion, parce que dans les sciences de gestion, il y a souvent cette idée que l'autonomie c'est un bien en soi et ça se discute même pas. Alors qu'il y a un débat dans les sciences du travail, chez les ergonomes, chez les sociologues, chez les économistes du travail, etc., sur qu'est-ce qu'on peut faire de l'autonomie, en régime capitaliste. Certains diront par exemple que finalement, je pense par exemple à Danielle Linhart, qui est une sociologue du travail bien connue, elle va rappeler toujours que derrière l'autonomie, il y a justement la subordination dont on a parlé tout à l'heure. Et que finalement, l'autonomie, ça n'est qu'un moyen de mystifier le rapport au travail. En fait, c'est un voile illusoire sur la réalité des rapports de travail qui restent des rapports d'exploitation capitaliste. Et il y en a d'autres à l'inverse. Je pense par exemple aux réflexions d'Yves Clos ou dans le champ de l'économie à Thomas Coutreau, qui vont au contraire mettre l'accent sur l'idée qu'il faut relever le défi de l'autonomie et que l'autonomie, c'est aussi un besoin, Coutreau parle d'un besoin éminemment subversif des salariés. Et donc, il y a cette idée que finalement, on pourrait prendre le capitalisme à son propre jeu et en poussant à son terme les logiques de l'autonomie, en quelque sorte, déstabiliser le système économique. Et donc, nous, par rapport à ces débats qui, en fait, se résument à cette idée, est-ce qu'il faut ou pas croire en l'autonomie, on essaye de faire un pas de côté. En montrant que l'autonomie, comme je le disais auparavant, il y en a des acceptions diverses, il y en a des usages variés, et notamment tous les salariés ne sont pas également disposés face à l'autonomie. Et quand tu évoquais le fait qu'il y a des salariés qui refusent l'autonomie, nous on l'a rencontré parmi par exemple des vendeuses qui travaillaient dans le magasin depuis des années, parfois une vingtaine d'années, qui pouvaient au début de leur carrière avoir voulu jouer le jeu de cette autonomie, c'est-à-dire s'investir, prendre des initiatives, prendre des responsabilités comme on les invitait à le faire, et puis qui au bout d'un certain temps disent je veux plus qu'on m'emmerde avec ça, moi je veux juste faire mon travail, avoir des directives claires et avoir mon salaire à la fin du mois, parce que c'est aussi un moyen de se protéger en fait, parce que la politique managériale de l'autonomie, elle a pour conséquence de permettre une surmobilisation des salariés au travail, et pour tout un tas de salariés qui peuvent être en particulier les femmes qui la vendeuse en question à laquelle je pense était une mère isolée qui devait s'occuper de ses enfants, etc., qui avait donc une charge de travail domestique extrêmement importante. Le travail salarié, c'est qu'un aspect parmi d'autres dans son travail. Et donc, pour penser justement ce désengagement du travail salarié, il faut regarder ce que sont les salariés en dehors de l'entreprise et dans les autres sphères où ils sont aussi, où ils ou elles sont aussi amenés à travailler.
Alors, Maxime, les salariés à Décathlon, qui sont-ils ?
Alors, les salariés à Décathlon sont avant tout des jeunes salariés qui ont des contrats courts, des contrats souvent précaires. De mémoire, je crois qu'on a autant de femmes que d'hommes, donc une moyenne d'âge qui doit tirer autour d'une grosse vingtaine. avec la possibilité d'évoluer assez rapidement dans l'entreprise, justement quand on joue le jeu de l'entreprise et de l'autonomie, puisqu'en fait, deux choses importantes pour compléter la réponse assez substantielle déjà de Karel, mais ce qui est important pour nous, c'était de bien préciser de quoi on parlait quand on parlait d'autonomie. Souvent, l'autonomie est, comment dire, à une acception en fait à la fois vague et incontestable. Et nous, ce qui nous semblait important, c'était de dire quel type d'autonomie, alors ça, c'est de l'entreprise, son grande originalité, plein d'autres auteurs aussi ont pu le signaler, mais avec l'idée que l'autonomie est avant tout tournée vers l'organisation et pour l'organisation. Et ça, c'était important, justement pour éviter dans le piège du faux débat dont parlait tout à l'heure Karel, l'autonomie, elle est pensée avec des arguments souvent tournés vers les salariés, officiellement, mais en réalité, qui sont tournés pour les objectifs économiques de l'entreprise, aussi pour respecter la philosophie sociale de l'entreprise. Donc ça, c'était important d'avoir bien conscience, d'avoir ça en tête, et à côté, de voir quel type de salarié, là je reviens à ta question, quel type de salarié était disposé à rentrer dans le jeu de cette autonomie pour l'organisation. Et ça, nous, c'est un pas de côté qui est important, puisque généralement, on ne pense pas aux travailleuses et aux travailleurs qui sont susceptibles de jouer le jeu. On pense qu'il y a autonomie ou pas, et quel type d'autonomie, mais qui sont les personnes, qui sont les salariés qui vont adhérer et bénéficier finalement de cette autonomie pour l'organisation. Et là, pour le coup, on a donc eu affaire à beaucoup de jeunes, effectivement, au cours de notre enquête, mais ce qui nous a beaucoup interpellés, c'est les profils des gens qui vont bénéficier de cette autonomie pour l'organisation. Et là, pour le coup, c'est ça que moi, je trouve que l'apport du livre, c'est de dire, attention, c'est pas plus ou moins d'autonomie, une bonne ou une mauvaise autonomie, c'est à qui sert l'autonomie promue dans une entreprise, en particulier à Decathlon. Et c'est là qu'on s'est aperçu, alors je sais pas si j'avance trop dans le roulé de l'entretien.
Non, c'est bon.
C'est là où on s'est aperçu qu'en fait, cette autonomie, elle était très souvent, elle bénéficiait très souvent aux mêmes personnes, qui ne sont pas nécessairement en fait les personnes qui sont visées officiellement par le discours de Decathlon, puisque Decathlon promeut, il faut peut-être revenir là-dessus, hein, quel type d'autonomie en fait est défendu à Decathlon. À Decathlon, il faut savoir que dès le premier jour, on vous dit en tant que salarié, mais même en tant que salarié en CDD, qu'on peut changer les prix, qu'on peut gérer les stocks, qu'on peut changer son rayon. Donc voilà, au contraire, on est très incité à le faire. Hein, avec l'idée qu'on a un droit à l'erreur, on vous a choisi pas forcément en fonction de votre niveau de diplôme, mais plutôt en fonction de votre personnalité ou de vos talents.
Alors ça, on va y revenir, mais voilà. Ça n'a rien à voir.
D'accord. Et du coup, en fait, dès le départ, Decathlon promeut en fait une autonomie quand même assez forte et assez distinctive du reste de la grande distribution, et puis surtout pour des postes de ce niveau-là, qui a une formation aussi, pas forcément avec beaucoup de formation, qui reste relativement rare. C'est pour ça que c'est un cas intéressant pour nous. Et en réalité, derrière ce discours-là, on s'aperçoit assez vite que ceux qui en bénéficient ne sont pas toutes les personnes qui sont censées en bénéficier, c'est-à-dire aveugles au genre, aveugles aux inégalités ethno-raciales et aveugles aux inégalités de classe. Et on va s'apercevoir assez vite, finalement, que c'est des hommes de classe moyenne et supérieure qui vont surtout tirer...
De race blanche.
Jeune.
Voilà.
Alors, justement, le recrutement à Decathlon. Decathlon promet une image en disant, quand on s'implante quelque part, on s'efforce d'avoir du personnel qui ressemble à la zone où on s'est implanté. Vous, vous démontrez qu'il n'en est absolument rien, quasiment.
Alors oui et non. Voilà. C'est-à-dire que, par exemple, Maxime disait tout à l'heure, il y a à peu près autant d'hommes que de femmes dans la force de travail parmi les salariés de Decathlon. Quand on regarde la masse des salariés indifférenciés, quand on regarde les positions de pouvoir et d'encadrement, la part des femmes se réduit dès l'accès au rang de cadre intermédiaire, qui est la position de responsable de rayon. Et donc... en fait, par exemple, dans le magasin qu'on a étudié, qu'on a observé, qui était implanté dans une commune populaire avec des classes populaires, à l'image des classes populaires aujourd'hui, c'est-à-dire majoritairement racisées, le discours du directeur de magasin, c'était de dire je recrute à l'image du quartier, à l'image de la ville. Et dans une certaine mesure, c'était le cas. pour les positions de vendeur, pour les positions, les positions de salarié, d'exécution, subordonné. Mais quand on regarde...
Voire de vigile.
Ou de, encore plus de vigile. C'est-à-dire que là, pour le coup, quand on regarde, quand on essaye d'aller un petit peu plus loin sur la division du travail selon le sexe ou la race, on voyait par exemple que les jeunes femmes étaient plutôt concentrées dans les positions de caisse. Il y a aussi des femmes parmi les vendeuses, mais en tout cas, la proportion d'hommes et de femmes était beaucoup plus équilibrée du côté des rayons, alors que du côté des caisses, c'était majoritairement des femmes. Et en termes de racisation, pas les seuls, mais la majeure partie des salariés noirs qu'on a vus, par exemple, étaient des agents de sécurité. Donc, il y a effectivement cela. Sachant que les agents de sécurité, ils sont en sous-traitance. Hein, donc, ce n'est pas directement l'entreprise qui a la responsabilité de les embaucher. Mais ensuite, surtout, pour revenir à ce que je disais au départ, hein, donc il y a cet argument de, finalement, à Décathlon, chacun a sa chance. On ne recrute pas sur la base des diplômes, on recrute à l'image des populations locales dans lesquelles on est implanté. Et d'une certaine manière, comme je le disais, c'était le cas au premier stade du recrutement. Mais très vite, quand on reste sur le temps long dans un magasin, on voit comment s'opèrent les promotions. On voit aussi qui sont celles et ceux qui occupent des positions d'encadrement. Et là, on en revient à ce que disait Maxime, c'est-à-dire que la diversité sociale de départ, qui suppose en théorie que tout le monde est à égalité dans une grande course méritocratique, hein, parce que c'est un peu la métaphore sportive qui est souvent invoquée aussi à l'intérieur de l'entreprise, en vérité, il y en a qui sont beaucoup mieux placés que d'autres dès le départ pour accéder aux positions de direction, à la fois parce que être disposé à occuper des fonctions de responsable de rayon à Décathlon, il faut plusieurs choses. La première chose, c'est que le plus souvent, les progressions de carrière, elles impliquent la mobilité géographique. C'est-à-dire qu'on doit changer de magasin. Donc ça se pose évidemment pas de la même manière pour un salarié ou une salariée qui est jeune, qui n'a pas encore d'attache familiale. Évidemment, ça se pose différemment pour les femmes et les hommes, parce qu'on sait très bien encore aujourd'hui comment les charges, le travail domestique est inégalement réparti entre les femmes et les hommes. Donc le fait d'envisager d'aller dans un magasin à l'autre bout de la France pour accéder à une position de cadre, c'est pas donné de la même manière à tout le monde. Ça, c'est un premier élément. Le deuxième élément, c'est qu'il y a une des dimensions de l'autonomie promue par l'entreprise dans le magasin qu'on définit comme une autonomie un peu projectionnelle, c'est-à-dire la capacité des individus à se projeter, à faire preuve d'ambition. Une des questions qui est posée dans les entretiens d'embauche, c'est souvent où tu te vois dans 4 ans ou dans 10 ans. Et donc, la bonne réponse, c'est moi, je vais être directeur magasin, je vais être directeur pays, etc. Et ça suppose des dispositions sociales. C'est-à-dire ça suppose un sentiment de légitimité à se penser soi-même comme un dirigeant. Et on sait aussi, par tout un tas de travaux attentifs aux socialisations de classe et de race et de genre, que les individus, en fonction de leur position dans les rapports sociaux, ne sont pas également disposés à se penser comme tels.
Je renvoie à la distinction de Bourdieu, qui est excellent pour ça.
Et dans le bouquin, on décrit à travers le cas de deux jeunes salariés qui sont mis en concurrence pour accéder à une position de chef de rayon, à quel point justement ces inscriptions sociales, elles jouent sur la capacité, sur au final celui qui sera promu tandis que l'autre sera remercié. Je ne sais pas si Maxime...
Si, je pense que c'est là l'intérêt du livre, c'est d'incarner en fait sociologiquement l'autonomie, c'est-à-dire qu'on en parle très souvent de façon abstraite et de façon générale, alors que là on cible une politique d'organisation précise, son application dans un magasin. Je pense que ça, il faut le rappeler, c'est un petit bouquin, mais avec la volonté de vraiment matérialiser par des observations, par des entretiens. On a voulu faire quelque chose très ras la moquette, si je puis dire.
C'est très fin. C'est passionnant. Vraiment.
Il y a peut-être parfois plus de jargon dans notre façon d'écrire le bouquin que dans la façon dont on l'a écrit. Ça, c'est aussi pour les lecteurs et les lectrices de prévenir que
ça se lit très bien. C'est limpide. Il y a des choses dont je me doutais qui me sont confirmées par rapport à l'autonomie dans le travail.
Et voilà, et donc ça c'est une des choses. Donc montrer la mise en œuvre en fait très concrètement d'une politique d'autonomie à Decathlon, comment, qui sont les gens qui la portent, et surtout qui sont les gens qui la reçoivent. Et ça, à côté en fait du quotidien du magasin qu'on décrit, on montre qui sont ces personnes, et grâce aux entretiens. Alors ça a été aussi, on a eu une chance quand même assez incroyable de faire cette enquête par la croyance justement de l'organisation dans son modèle, puisqu'on a pu faire des entretiens sur le temps de travail. Mmh. Ce qui fait que les salariés étaient quand même très enthousiastes à l'idée de passer quelques dizaines de minutes à parler de leur travail avec nous sur leur temps de travail. Puis donc, ils étaient payés pour nous répondre. Donc, ça a beaucoup facilité. Et du coup, ça nous a permis d'avoir accès, en fait, à leur socialisation de classe, notamment, et qui a été très révélatrice, en fait, de ceux qui, et celles, et surtout ceux qui en bénéficiaient. Mmh. Et pour revenir sur cet exemple, en fait, de cette mise en concurrence de deux jeunes pour devenir responsable de rayon, on s'est aperçu que l'un avait connu tout un ensemble d'éléments au sein de sa vie. Alors, il était jeune, hein, il avait une vingtaine d'années, mais qu'il avait en fait donné un ensemble d'outils et de compétences, mais des compétences sociales, pas nécessairement des compétences, alors aussi des compétences techniques, mm-hmm. mais des compétences sociales qui très vite vont lui permettre d'être en osmose, voilà. Si vous voulez, en osmose avec la politique dans l'entreprise. Et à côté de ça, on avait cet autre vendeur, alors il était responsable de rayon en alternance, mais qui voulait viser aussi ce poste, et qui, lui, venait d'un milieu populaire et qui avait beaucoup plus de mal à se projeter dans cette autonomie, parce qu'il faut préciser quelque chose, c'est qu'à Decathlon, on n'attend pas simplement des savoir-faire, mais on attend des savoir-être. Voilà. Et ça, ils sont très soucieux de ces savoir-être et qui, pour le coup, sont un ensemble de réquisites sociaux et sociologiques. Mmh. C'est-à-dire qu'on a des injonctions à être, et ces injonctions à être ne sont pas neutres socialement.
Non. Voilà. Alors, nous allons faire une pause pour nos auditeurs et pour vous-même. Et nous allons revenir dans la deuxième partie sur l'autonomie, si j'ose dire, plus managériale.
Enchanté, James Lou, j'ai 25 ans, j'habite à Lyon. Je suis disponible 5 jours par semaine pour vendre mon cul dans n'importe quel taf. Le reste, je fais du son, j'enregistre des morceaux, j'écris des clips, j'imagine des stratégies sur les réseaux. Mais je suis motivé, hein. Bien sûr que je suis motivé. Juste le 4 mars, j'ai un concert à Grenoble, donc si je peux avoir mon soir, c'est cool. Mais sinon, j'adore tout ce qui est ménage, porter des trucs bien lourds, faire mes tards. Et faire des heures sup, c'est vraiment mon truc, donc si je peux louper les derniers métros, puis rentrer à pied sous la pluie, ça m'arrangerait énormément. Mes trois plus gros défauts, le premier, c'est peut-être que si je peux, je vais taper dans la caisse, mais vous verrez rien, des petits billets de vin, on se crête juste comme ça. Pour le plaisir de vous la mettre, il faut que je vous l'admette. Ma lettre de motivation, je l'ai pris sur le net. Et je suis pas motivé, mais je suis fauché sa mère. Donc je fais genre de lettres, cuistot ou bien serveur. Caissier, manutention, gestion clientèle. J'encaisse que les clientes belles. Je suis dans les stocks, j'écoute mon son, je fais que m'ambiancer. Y'a Sylvie à sa post-clope, elle me parle de l'horoscope et de Beyoncé. Je suis en survêtement à la caisse lundi matin, moi je suis resté endimanché. Le CV, c'est que du fake. J'ai pas les diplômes requis, pourtant je fais mieux ce que tu fais. Mon responsable à l'âge de mon petit frère, c'est comme ça, il faut s'y faire. Le temps passe, l'ego s'y fait. Je prends 7 euros de l'heure, un jour on verra bien les contrats que je négocierai. Mon deuxième défaut, c'est que demain, malheureusement, je viendrai pas bosser. Ce soir, j'ai prévu de me servir un truc et de pas doser. Impossible de pas oser le faire dans le sac à dos, j'ai des rêves. C'est réel, je vis ma vie en accéléré. J'ai besoin de cash, oui monsieur, j'ai besoin de cash, c'est pour ça qu'on parle. J'ai les poches vides mais le cœur plein et c'est peut-être pour ça qu'on rate. Mon destin il m'attendra à 22 quand j'aurai fini de laver leur sol. On leur a donné notre corps 35 heures mais on garde nos valeurs sauf. La vraie vie c'est pas l'air soft, je suis grave def mais j'ai l'air soft. J'ai tout mis dans mes morceaux, y'a pas le choix faut le faire seul. Et c'est pas le ciel que je remercierai, c'est mes dorsaux. J'ai Peter Pan à Pôle emploi, dans les couloirs c'est un peu l'angoisse et c'est bientôt mon tour. Moi c'est James Lou, mais ici je m'appelle Antoine. Ma réalité est invisible à vos yeux, voilà monsieur. Sinon pour encaisser j'ai 2-3 notions mais je suis pas très bon vendeur. Sinon j'aurais déjà vendu mes sons et je serais pas en train de me forcer à sourire pendant que je vous parle depuis tout à l'heure. Mon troisième défaut il est dans la poitrine, c'est ce truc qui bat. J'ai un stud dans la cabine, écoute ma voix dedans y'a tout ce que j'ai. J'suis pas un gosse de la patrie, midi 20 j'pensais à mes rêves dans la cantine.
La femme du PDG s'amuse bien pendant qu'il bricole sous la pension. J'ai tout mis dans ma douce, dans ma famille, mon art, t'as tout mis dans ta voiture. Là j'ai le monde à mes pieds, quand je suis sur la scène, j'ai grandi dans les ratures. On n'est pas encore à sec, le moteur fumé dedans y'en a assez. Plein hiver sur la A7, au bout de la route, il pleut de l'oseille. J'ai pas tapé pour toi, si tu savais le rap, tout ce qu'il a fait pour moi. Et quand je serai une star, le salaire que tu me donnes, ce sera des pourboires. Je voulais rester courtois, mais dans un monde brutal, et police est pas rentable. A ton taf, je m'apparente pas, maman, le monde est à moi, donc ce soir, moi je rentre pas. Je connais le goût du seum, je le mélange au sky. Notre place, c'est le trône ou le square, il est tard, mais on rentre pas, pourtant on caille. Rien à foutre de ce job de merde, assis devant ce mec, j'ai le mal de merde. Je suis désolé, monsieur, mais j'espère que vous me recontacterez. À part ces trois défauts, je crois que j'en vois pas d'autres. J'attends votre appel, voilà mon 07. Je suis disponible dès la semaine prochaine pour un essai. Vraiment hâte d'intégrer l'équipe, de pouvoir représenter l'enseigne. Je vous envoie tous les papiers, le RIB et l'adresse. Bonne journée, je me permets de quitter la pièce.
Chers auditeurs de La Rage Dedans, nous sommes de retour dans la deuxième partie de l'émission sur les gilets bleus, les faux semblants de l'autonomie au travail à Décathlon, avec Maxime Quijoux, et Karel Lyon. Messieurs, à un moment donné, vous abordez le terme de politique de l'autonomie et vous démontrez que, quelque part, l'autonomie est issue de politique managériale dont le chef de file est un certain Tom Peters. Alors, les auditeurs de La Rage Dedans savent que j'ai la manie d'aller vérifier un certain nombre de choses. Donc, je suis allée vérifier qui était Tom Peters et il a une liste de 8 attributs des meilleures entreprises. La première, le premier, c'est elles ont le parti pris de l'action. Elles restent à l'écoute du client. Elles favorisent l'autonomie et l'esprit novateur. Elles basent la productivité sur la motivation du personnel. Ça devient intéressant. Elles se mobilisent autour d'une valeur clé. Elles s'en tiennent à ce qu'elles savent faire. Elles présentent une structure souple et légère. Et elles allient souplesse et rigueur. Donc, le 4 et le 5, et le 3, 4, 5 deviennent intéressants. Elles favorisent l'autonomie et l'esprit novateur. Décathlon.
Alors, toujours, ça reprend ce qu'on disait un peu tout à l'heure, c'est-à-dire que c'est,
tout à fait.
La question n'est pas de savoir si l'autonomie ou l'entreprise ou Décathlon fait ça, c'est à qui ça fait ça en fait.
Voilà, ça on l'a bien développé. Mmh. Elle base la productivité sur la motivation du personnel.
Par rapport à ce que tu dis là sur ces... En fait, Peters et d'autres, il y a tout un tas de promoteurs aujourd'hui dans la littérature managériale de ce qu'on appelle l'entreprise libérée.
Tout à fait.
Et parfois, quand on spontanément on réfléchit à qu'est-ce que peut être une entreprise libérée, on pourrait penser que c'est une entreprise qui aurait supprimé des contraintes organisationnelles et qui permettrait aux individus d'être eux-mêmes ou elles-mêmes. En réalité, ce qu'on montre dans le bouquin, c'est que la philosophie de l'entreprise libérée, ça suppose tout un équipement institutionnel, tout un travail d'organisation. Et ça se traduit par des politiques managériales. C'est-à-dire que ce n'est pas du tout une entreprise qui a moins de règles ou moins d'encadrement, c'est une entreprise qui transforme ses modalités de règles et d'encadrement, qui transforme ses modalités de contrôle. C'est en fait cette idée que, et ça fait écho avec ce que tu disais là parmi les principes de ces entreprises sur la question des valeurs, c'est aussi l'idée que finalement les individus vont être amenés à s'engager dans leur travail, non pas en fonction d'incitations extérieures que pourraient être les ordres des supérieurs ou la promesse d'un salaire, d'un revenu monétaire suffisant, mais en fonction de valeurs à laquelle individuellement ils vont adhérer. Donc en fonction de motivations qui seraient en quelque sorte profondément intériorisées.
Voilà. Alors les salariés de Décathlon, vous le dites dans une phrase, page 35, les salariés en viennent par eux-mêmes à se fixer des objectifs conformes aux attentes de la hiérarchie. L'autonomie dans la subordination. En fait, c'est de l'autonomie dans la subordination. C'est-à-dire que ils en viennent à être leur propre exploiteur. Voilà. Le mot est dit.
Alors, effectivement, En fait, pour comprendre cette attitude-là, il y a plusieurs leviers que mobilise Decathlon. Déjà, la première chose, c'est toujours en revenir à la définition qu'essaye de donner Decathlon à l'autonomie. L'autonomie n'est pas neutre, voilà, c'est une coquille qu'on va remplir en fait, de la substance qu'on va vouloir donner en fait, à cette autonomie, à Decathlon. Donc, il y a une autonomie pour l'organisation, et pour que cette autonomie soit le plus profitable à l'organisation, on va essayer de défendre un modèle d'autonomie qui est celui un peu de l'entrepreneur. D'accord. Et donc, cette idée de varier les prix, de gérer le stock et de gérer son rayon, c'est de dire, bah, tu as ta petite boutique, voilà. Et maintenant, tu te fais plaisir et tu y vas à fond. Et donc, tu fais en sorte de faire fructifier le plus possible cette petite boutique qui est ton rayon. Et ça, grâce d'ailleurs à un système de primes qui est assez... pas forcément très original, mais qui se multiplie finalement en fonction d'un ensemble de critères qui est, voilà, qu'on retrouve un peu ailleurs aussi dans la grande distribution. Et autre chose qui est extrêmement important, c'est celui de la convivialité et de la communauté. Quand on arrive à Decathlon, on rejoint la communauté décathlonienne qui se fonde donc sur le tutoiement, hein, c'est quasiment une obligation. Sur la détente, la convivialité dans le travail, c'est-à-dire avec une bonne humeur, parfois un peu de surface, mais qui est quand même relativement présente, mais une bonne humeur qui se poursuit au-delà du travail également. Mmh. Hein, il y a un brouillage en fait entre le professionnel et l'extra-professionnel qui est extrêmement important, avec des fêtes, avec des initiatives qui sont organisées à l'extérieur du travail, ce qui fait qu'en fait finalement tout ça fait que, alors dernière chose, pardon, sur la question de la convivialité, la mobilisation par le sport, on n'a pas beaucoup insisté là-dessus, car elle l'a évoqué tout à l'heure, mais il y a les valeurs du sport et les pratiques sportives, les philosophies sportives qui sont beaucoup mobilisées aussi à Decathlon, à la fois du côté communautaire, c'est-à-dire qu'on est une grande équipe et on va essayer d'être solidaire, mais aussi individualiste, c'est-à-dire qu'on va être en concurrence avec les autres, voilà. Et donc on joue sur ces différents tableaux qui conduisent finalement à croire qu'on appartient à cette grande famille, qu'on va être quelqu'un qui va pouvoir se saisir de cette autonomie pour faire fructifier à la fois les profits d'entreprise et ses propres profits.
Voilà, c'est-à-dire que on vit sa passion tous les jours, on bouge, on joue, et celui qui fait est celui qui sait. Donc c'est aussi l'héritage...
Ça, c'est des valeurs de Decathlon.
Voilà. Sont, c'est les préceptes managériaux de l'entreprise.
Et ça, c'est un paternalisme hérité du catholicisme social, au cœur du modèle de la famille Mullier.
Ça, oui, on l'a pas beaucoup évoqué jusqu'à maintenant, mais c'est vrai que Decathlon, c'est une entreprise qui fait partie d'un groupe beaucoup plus large, qui est le groupe détenu par la famille Mullier, donc qui se revendique d'un héritage du catholicisme social. Hein, donc c'est une vieille famille de la bourgeoisie du Nord, hein, qui a fait fortune dans l'industrie textile, et puis comme beaucoup d'autres grandes familles de la bourgeoisie du Nord dans les années 60, a reconverti le capital, qui était un capital industriel, dans les usines textiles, dans les activités de distribution ou d'autres activités, mais au fur et à mesure que la production industrielle était délocalisée dans les pays du Sud. Et donc, il y a cette idée qui était bien illustrée dans le documentaire de Cache Investigation sur les Mulliers, hein, cette idée un peu de une famille qui étale pas forcément sa richesse, qui fait profil bas.
Il y a 4 ou 5 gestionnaires d'après eux, ouais, c'est tout.
Voilà, c'est ça, dont un qui a bien voulu répondre à Élise Lucet. Mais il y a cette idée que un précepte qui revendique souvent, c'est le bien ne fait pas de bruit, le bruit ne fait pas de bien. Donc il y a un peu cette idée de discrétion. Et parmi les principes de ce catholicisme social, il y a celui de la subsidiarité qui entre un peu en résonance avec, et finalement beaucoup avec les théories plutôt modernes de l'entreprise libérée. Hein. L'idée de la subsidiarité, c'est, tu l'as dit toi-même, hein, parmi les préceptes, celui qui sait et celui qui fait. Et donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que les relations hiérarchiques, elles sont très largement euphémisées dans l'entreprise, à la fois parce que ceux qui sont en position de commandement, qui ont un statut supérieur, qui sont objectivement cadres, par exemple les responsables de rayon, les directeurs de magasin, tutoient leurs collègues, sont habillés comme eux, ont le même gilet bleu, ont pas de bureau attitré, etc., peuvent y compris filer des coups de main sur la moquette, comme on dit, c'est-à-dire aider à réceptionner les paquets, à les mettre dans les rayons, etc., etc.
Mais ils n'oublient pas de dire, oh, cette fois-ci, on a fait moins que d'habitude.
Oui, avec toujours un peu l'idée dans ce lance des défis pour être plus efficace, etc. Avec toujours un peu cet esprit sportif. Mais ce que je voulais dire aussi, c'est qu'au-delà de cette finalement euphémisation des rapports hiérarchiques, hein, par le fait que les cadres un peu mouillent la chemise aussi auprès des vendeurs, il y a inversement cette idée que la logique de subsidiarité et d'autonomie fait en sorte que les salariés, y compris quand ils sont dans des positions d'employés, donc de salariés subordonnés, en viennent eux-mêmes à exercer par délégation des tâches d'encadrement. C'est-à-dire que très souvent, en fait, dans les rayons à Décathlon, le chef de rayon, il n'est pas sur son rayon. Et vous avez une diversité de salariés qui sont sur un rayon, et ça va être souvent les vendeurs qu'on appelle piliers ou anciens ou permanents, qui peuvent être en 35 heures ou qui peuvent être à temps partiel, mais qui en tout cas sont en CDI et sont là depuis un peu plus longtemps que les autres dans le magasin, qui vont par délégation en fait jouer le rôle de petit chef. Y compris parfois de manière un peu abrupte vis-à-vis de petits jeunes qui viennent d'arriver, qui soient en CDD d'un mois ou de deux mois et qui se font remonter les bretelles parce que...
Devant tout le monde.
Y compris devant tout le monde, ça peut arriver. Donc voilà, donc il y a cette idée aussi de finalement... partager les tâches d'encadrement avec évidemment cette un peu un marché de dupes, c'est-à-dire qu'il peut y avoir des rétributions symboliques à se penser comme dépositaire un peu d'une responsabilité, mais il y a évidemment pas d'équivalent monétaire.
Ils sont mal payés.
Oui, les salaires sont assez bas. Alors voilà. Après, c'est variable parce que...
Tout est individualisé à Décathlon.
Il y a une bonne partie. Alors, ce n'est pas tant individualisé que primé. C'est-à-dire qu'il y a deux dimensions. Il y a effectivement, les salaires sont dictés par des logiques individuelles. C'est-à-dire que les salariés ont des entretiens individuels avec leur N+1. En fonction de la façon dont ils ou elles ont fait leurs preuves sur le terrain, ils peuvent avoir des augmentations individuelles. Mais la majeure partie de la part variable des rémunérations à Décathlon, elle dépend de primes collectives. Qui renvoie justement à la performance du rayon, du magasin ou du pays. Il y a différentes portions en fait de rémunération. Et puis il y a un autre aspect qui est aussi très important à Décathlon parce que ça participe de ces dispositifs un peu d'intériorisation, de se mettre au service de l'entreprise, c'est la participation des salariés au capital de l'entreprise. En fait, ce n'est pas une participation directe, mais les salariés détiennent des titres dans un fonds de placement qui fait que quand l'entreprise est rentable, il y a des dividendes qui reviennent aux actionnaires familiaux, mais il y a aussi une participation au capital qui revient aux salariés. Et donc, ça conduit à ce que les salariés qui bénéficient de ce type de participation, ils se pensent comme eux-mêmes, finalement, des petits capitalistes.
Actionnaires, salariés actionnaires.
Voilà, totalement.
Vous utilisez le terme de salarié actionnaire dans votre livre.
Absolument.
J'ai trouvé ça parfait. Parfait. Et surtout, il y a l'anecdote du smartphone. Expliquez à mes auditeurs comment un smartphone particulier.
En fait, je ne sais pas si c'est une particularité de Décathlon, mais effectivement, quand on est...
Le contenu est particulier.
Alors, quand on est recruté à Décathlon, on nous donne un outil qui est donc un smartphone et qui permet d'avoir en temps réel tout un ensemble de données à la fois sur son rayon, sur son stock, mais aussi sur l'état des ventes. Sur l'état des ventes, je parle sous le contrôle de Carrel, mais sur le mois en cours, sur les 6 mois en cours et sur l'année en cours. Ce qui fait qu'en réalité, on n'est pas qu'un simple vendeur, mais on est aussi...
Un performer,
en tout cas un détenteur d'un ensemble d'informations qui sont rarement... fait donner aux salariés de base, mais qui vise justement à alimenter cette idée, cette croyance justement d'une autonomie déclinée sous la figure de l'entrepreneur. Voilà, on te livre toutes ces informations pour que toi tu te saisisses en fait, pour que tu puisses t'en saisir et que tu puisses tirer le maximum parti de ces informations dans la définition de l'autonomie qu'on te donne. Et donc une fois de plus, ça renvoie finalement à une autonomie très socialement située. Hein, c'est pas n'importe la, voilà, parce que certains, c'est ce qu'on a un peu essayé de mettre en lumière, hein, façon peut-être un peu schématique, mais les gens qui viennent de milieux populaires vont parfois avoir, d'ailleurs, vont s'inscrire parfois dans cette autonomie-là, mais plus finalement parfois un peu sous la forme de petits commerçants, et d'autres qui vont peut-être plus avoir une idée de l'autonomie qui va être de bien faire son travail, tout simplement. Hein, je ne vais pas me projeter dans ces savoir-être, dans cette idée que je suis un entrepreneur déguisé dans mon rayon. Je suis simplement là, un camarade qui va peut-être parfois avoir des responsabilités sur les autres et qui va parfois leur donner des ordres. Mais je suis là pour bien tenir mon rayon, pour vendre et pas pour faire croire au monde entier, notamment à mes supérieurs, que je suis celui qui va devenir dans 2 ans le directeur de magasin, etc. etc. Donc voilà, il y a tout ça qui est important et ce smartphone finalement concrétise cette idée, la définition de l'autonomie à Decathlon.
Et je rebondis là-dessus parce que c'est important cet outil du smartphone parce que ça permet de montrer que les formes d'exploitation du travail dans le capitalisme contemporain elles peuvent être très variables. Mmh. C'est-à-dire que le smartphone des vendeurs de Decathlon, ce n'est pas l'équipement électronique des ouvriers de la logistique chez Amazon. C'est-à-dire que chez Amazon, il y a vraiment une espèce de téléguidage du travail ouvrier qui fait que les ouvriers n'ont pas le choix sur comment ils organisent leur travail. Hein. C'est la machine qui leur dit « t'as tant de temps pour aller chercher tel paquet dans tel rayon pour préparer la commande, etc. T'as tant de temps pour aller aux toilettes, etc. » À Decathlon, ce n'est pas du tout le cas. C'est-à-dire que les vendeurs ne sont pas contrôlés par leur smartphone. Les vendeurs contrôlent leur smartphone, ils en ont la possession et cet outil leur permet de se penser et de se projeter, comme le disait Maxime, comme des petits entrepreneurs qui vont gérer un peu la boutique, leur rayon ou même leur gamme à l'intérieur d'un rayon pour la rendre la plus profitable possible. Et donc, il y a vraiment cette idée que c'est une forme de... Alors, moi, j'aime pas l'expression d'auto-exploitation parce que l'exploitation, par définition, ça suppose qu'on travaille plus et que ce surcroît de travail, il est approprié par quelqu'un d'autre. Mmh. Donc, en l'occurrence, quand les salariés travaillent plus, ils s'auto-exploitent pas, ils sont davantage exploités par le capital pour lequel ils travaillent. Mais en utilisant ce smartphone, ils se pensent comme des entrepreneurs qui vont, par exemple, décider de mettre un petit coup supplémentaire, travailler un petit peu plus en dehors des heures sur lesquelles normalement ils sont censés être affectés sur un rayon, prendre un peu de travail chez soi pour remettre à plat les stocks, etc. Et donc en donner toujours un petit peu plus parce que y a cette idée que ça a des retombées positives pour soi, puisque effectivement une part des rémunérations, elle dépend de la performance économique de son rayon et de son magasin, mais en sachant que la majeure part, elle revient bien évidemment aux détenteurs du capital. Hein, tu le disais en ouverture de l'émission, 1 milliard de dividendes en 2024, je crois.
Oui.
3 ans plus tôt, quand on commence à faire l'enquête, c'était 350 millions, je crois.
Tout à fait.
Donc voilà, des profits qui explosent et ce ne sont pas les salariés qui ont vu une telle explosion sur leur fiche de paye.
Pas vraiment.
Ce qui a suscité d'ailleurs les premières mobilisations à Decathlon, qui est donc une entreprise assez paternaliste finalement, hein, historiquement, et qui du coup a réussi pendant très longtemps à créer une culture d'entreprise peu contestataire, et qui finalement voit surgir les premières mobilisations face en fait à ces dividendes qui explosent déjà il y a 3-4 ans, et qui n'ont pas cessé en fait finalement d'augmenter depuis. Quoi.
Voilà. Alors, à Decathlon, il y a aussi des auto-entrepreneurs qui travaillent, qui sont auto-entrepreneurs ailleurs et qui travaillent à Decathlon. Et ça, vous avez fait un chapitre qui s'appelle Autonomie au tamis, qui oui, c'est ça.
Oui, tout à fait. Oui, là, je riais sur le jeu de mots magnifique qu'on avait fait.
Mais oui, j'ai adoré. Et est-ce que vous pouvez en dire quelques mots pour expliquer à quel point là, c'est vraiment au-delà de tout. C'est vraiment, comment dire, c'est au-delà de tout. J'ai pas de mots pour le dire. Vraiment, profil, de choisir ce profil-là en particulier, c'est vraiment... Ça montre à quel point l'autonomie, c'est de l'enfumage.
Alors, en même temps, ce que cherche à montrer ce chapitre, c'est justement que certains salariés vont tirer leur épingle du jeu. C'est-à-dire que, comme Maxime le disait tout à l'heure, en fait, nous, une dimension importante du bouquin, c'est de montrer comment il peut y avoir du côté des salariés des appropriations différentes de ces politiques d'entreprise. Certains qui vont jouer le jeu et qui vont se retrouver donc à rentrer dans des carrières ascendantes, à devenir chef de rayon, à devenir directeur magasin, etc., qui ont toutes les disposition les propriétés sociales pour le faire. D'autres, comme on l'évoquait, qui vont plutôt être en retrait, qui vont dire, moi, je rentre pas dans votre jeu de l'autonomie, je suis là que pour faire mon travail dans les heures qui m'ont été assignées et m'en demandez pas davantage. D'autres qui, on l'a pas évoqué encore, vont être en conflit avec la direction d'entreprise sur le sens de l'autonomie, qui vont dire, vous passez votre temps à parler d'autonomie, mais en même temps, vous nous infligez, par exemple, un nouveau contrat de travail où on est censé être polyvalent.
BSO.
Et voilà, où on est censé pouvoir aller d'un rayon à l'autre, passer des rayons aux caisses, alors que moi, j'ai été recruté comme vendeur avec une expertise technique sur le sport que je pratique. Et donc, c'est une déqualification. Donc, ça ne me permet pas d'être autonome au sens professionnel, parce que le vrai savoir-faire, je l'ai dans mon rayon, dans ma pratique sportive. Ça, c'est encore une autre façon de concevoir l'autonomie du travail. Et puis, dernier élément, effectivement, ce que tu évoquais, c'est qu'il y a aussi à Décathlon tout un tas de salariés qui sont, à côté de leur travail salarié à Décathlon, des indépendants, qui peuvent être des auto-entrepreneurs, qui peuvent être des libéraux aussi. Il y avait tout un tas de kinés ou d'ostéos, par exemple, qui étaient en temps partiel à Décathlon et une partie de leur temps avaient un cabinet en libéral. Et ça nous semblait intéressant parce que ça permet aussi de donner à voir ce qu'on a appelé dans le bouquin une forme de néolibéralisme par le bas. C'est-à-dire qu'on a des salariés qui ont totalement endossé cette idée que aujourd'hui, pour tirer son épingle du jeu, il faut être un entrepreneur de soi-même, il faut être un bon petit patron, et qui tirent en fait de leur travail salarié à Décathlon toutes les ressources de cette conception-là. C'est-à-dire que bah justement, la flexibilité horaire qu'il y a à Décathlon permet justement d'articuler son temps dans l'entreprise comme salarié à des activités libérales ou à des activités privées ou à des activités de commerçants. Il y a aussi un salarié dont on parle qui a ouvert plusieurs petits commerces, etc. Et le fait en particulier de pouvoir justement se prévaloir d'un CDI chez Décathlon, c'est un atout, par exemple, pour avoir des crédits auprès des banques, pour lancer son affaire en tant qu'indépendant. Et je ne parle pas de la participation, de l'actionnariat salarié qui permet justement de mettre un peu une mise de départ. Donc on a cette idée finalement d'une entreprise avec un management néolibéral qui renforce les subjectivités néolibérales au-delà du travail dans l'entreprise, c'est-à-dire en encourageant les projets, des projets de type capitaliste auprès de salariés qui, là encore, en fonction de leur position sociale, leur trajectoire, vont avoir une vision un peu différente, hein, soit plutôt, quand on est issu des classes sup, justement, se penser comme un libéral, un kiné ou un ostéo, quand on est plutôt issu des classes populaires, investir dans l'immobilier ou dans un petit commerce.
Voilà. Ben écoutez, merci.
Merci à toi.
Merci à toi pour l'invitation.
Alors, je rappelle, il faut rappeler toujours le titre, surtout quand on a apprécié, et j'ai vraiment apprécié votre ouvrage, Gilets bleus, les faux-semblants de l'autonomie au travail à Décathlon, chez Raison d'agir. Il coûte la modeste somme de 14 euros, mais vraiment, c'est très modeste, et ça correspond vraiment à la philosophie de la maison d'édition Raison d'agir, qui est de mettre la science au service de tout le monde. Et si vous rêvez d'autonomie ou si vous avez des problèmes au travail, je vous recommande la lecture de cet ouvrage. Il est disponible à Publico, 145 rue Amelot, métro Oberkampf, Fille du Calvaire ou République. Merci à Frédéric pour la technique. Merci. Donc, on se donne rendez-vous dans 15 jours. D'ici là, portez-vous bien et faites attention à vous. Merci beaucoup.
Monsieur le Président, Madame Chirac, Bernadette, sur vos roues j'ai perdu mes dents, sur vos roues j'ai vu la fête, le froid, la pluie, mon petit déjeuner tous les matins, le vent, j'ai dessiné en mille facettes, un cœur rouge, les rues d'un gars, sans oublier rue de Lafayette, ils vous diront, il faut avoir un grain, c'est les rainettes, pour qu'on le chasse à l'âge de la retraite, je n'ai jamais dit que c'était sain, je conduisais une camionnette, sincèrement j'ignorais le tas, cela peut arriver aux prophètes, Monsieur le Président, Madame Chirac, Bernadette, s'il vous plaît, tendez-moi vos mains, au moins cassez les lunettes, s'il vous plaît, tendez-moi vos mains avant que je perds la tête. La rage. Arthur, Arthur, vous qui réalisez les rêves, je vous demande pas la lune ni la fortune, s'il vous plaît, aidez-moi sortir de ce fleuve, je souffre d'une fracture pulvérisée par la veuve, prévu de me tuer futur, l'angoisse vous de la preuve. La rage. C'est vrai que j'ai voyagé avec un pourriture, du pourriture. Et moi je jouais le rôle du Satan, son rôle a grillé Adam et Ève. Je me suis trouvé derrière les murs pour avoir conduit une voiture. On m'a interdit le territoire, j'ai fait appel à la marche ou crève. Le seul moyen de dire au public que je n'aurais cyanure. Ici ils peuvent le faire comprendre à ceux qui se sont réjouis de me jeter comme une ordure. Moi qui a laissé ma jeunesse et ma sueur sur les autoroutes toutes les Villeneuve. Monsieur Sarkozy, monsieur de Villepin, s'il vous plaît, permettez-moi si j'ai osé de vous demander un coup de main. Car c'est lui qui m'a jugé, déteste les maghrébins. Même ceux qu'on construit, le musil aura jamais de venin. Fallait voir comment qu'il a rougi, sans négliger, m'a coupé les jambes et compris les mains. Pire que les nazis, l'entend d'Hitler, mon père, il a défendu la source et les artères. Dans les de son fils numéro 1. Mais excuse les lésés si j'ai plus de freins. Si je laisse le moisi, adieu le pain. Voilà la poésie qui m'a permis d'analyser le défaut de l'humain. La rage, Arthur, Arthur, vous qui réalisez les rêves. Je vous demande pas la lune ni la fortune. S'il vous plaît, aidez-moi sortir de ce fleuve. Je souffre d'une fracture, pulvérisée par la veuve. Prévu de me péter futur, l'angoisse pour de la preuve. La rage, je vous fais serment devant le juge. Tu juges, c'est qui mon juge, tel qu'un maghrébin. J'étais blessé chez mon voisin, il a rien aux zizi tout dans les reins. Il m'aurait donné un coup de fusil ou de me jouer à sa tour. J'aurais pardonné la putain. Pourquoi j'ai réagi, s'agit des gamins. Leur amour m'a fait bouger sans les voir, je leur envoie les câlins. Peut-être qu'ils sont bien protégés, j'ai jamais eu de nouvelles, je ne saurais vous dire la situation de mes poulains. La rage. Mesdames, messieurs les députés, mon âme vous avoue si sincérité. C'est vrai qu'Anan m'a fait tomber quand j'étais petit. Et lui c'est vrai qu'Anan, avec ses talons, j'ai pas pu l'éviter. J'ai pas pu éviter sa banane, m'a marqué pour l'éternité. Mesdames, messieurs l'égalité, vous connaissez le renard depuis sa naissance, il vous a jamais quitté. Malheureusement, on profite de sa confiance, mal placée, parce qu'on adore son identité. Mesdames, messieurs la fraternité, vous voyez la conscience, aujourd'hui l'incroyable devient réalité. La rage. Arthur, Arthur, vous qui réalisez les rêves. Je vous demande pas la lune ni la fortune. S'il vous plaît, aidez-moi sortir de ce fleuve. Je souffre d'une fracture, pulvérisée par la veuve. Prévu de me péter futur, l'angoisse vous de la preuve. Arthur, Arthur, vous qui réalisez les rêves. Je vous demande pas la lune ni la fortune. S'il vous plaît, aidez-moi sortir de ce fleuve. Je souffre d'une fracture, pulvérisée par la veuve. Prévu de me péter futur, l'angoisse vous de la preuve. La rage.
On va vous parler du grand soir. On va vous expliquer pourquoi il faudrait manger les bourgeois. C'est une solution radicale pour un monde un peu moins bancal. Les nouveaux riches sont plus sincères, ils savent mieux s'envoyer en l'air. À part peut-être MC Solar, qui doit bien planquer sa Jaguar et sa gourmette de chez Cartier, qui fait le chelou dans son quartier. Voyez-vous, les riches sont des cons, je peux vous le dire, je suis de la maison. J'en ai rien contre le pognon, c'est super pour les commissions, pour le produit national brut et quand on est sous pour les putes. Avec des talbins plein les fouilles, on peut pas vous casser les couilles. Mais quand la banque fait des conneries, y'a plus un radis, c'est fini. Et il se retrouve à la rue, sont pas fichus de bouger leur cul. Ils ont jamais rien fait de leur dis-toi. Forcément, ça rend maladroit. Voyez-vous, les riches sont des cons, je peux vous le dire, je suis de la maison. La pauvreté pour garder le contrôle du savoir bien au milieu de leur belle mangeoire. Et y'a des riches plein les cimetières, ils ont des jolies tombes en pierre que les pauvres peuvent même pas s'offrir, et ça donne pas envie de mourir. Voyez-vous, les riches sont des cons, et je peux vous le dire, je suis de la maison.